Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie accompagnés jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Ève.
Alors cette heure, c'est la vôtre, on va parler pendant une heure d'une maladie mal connue, la dysmorphie corporelle, plus exactement la dysmorphophobie, une expression barbare pour décrire les personnes qui croient avoir un défaut physique énorme. Sauf que ce défaut, eh bien, la plupart du temps, il est imaginaire ou alors minime. Ce sentiment d'être difforme est donc une phobie qui touche 1 à 2,5% de la population, ce qui n'est pas anodin, des hommes comme des femmes. Et ces défauts imaginaires sont souvent liés au visage, les oreilles, le nez, la peau ou alors le corps, la poitrine et le poids chez les femmes, la stature et la taille du pénis chez les hommes. Certains passeraient entre 3 et 8 heures par jour à penser à leur ventre trop gros, leur peau trop pâle ou à leurs cheveux trop fins, des jours entiers à se regarder dans un miroir. Résultat, une vie gâchée par cette obsession. Les relations sociales sont réduites à peau de chagrin parce que ces malades sortent peu de chez eux ou alors camouflés. Une vie professionnelle difficile aussi dans 4 cas sur 5. Et une vie familiale envahie par cette croyance qui prend toute la place et qui empêche de vivre. Comment identifier le trouble de la dysmorphophobie corporelle? Comment s'en débarrasser? C'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous ce défaut imaginaire qui vous empêche de vivre, de sortir, de travailler parfois. Nous sommes là pour vous écouter.
Et pour vous joindre, Ève Roger, et raconter votre expérience à vous qui nous écoutez, le standard d'Europe 1 vous est ouvert, 39 21 50 centimes d'euros la minute, ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1, ou tout simplement sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger.
Ah, ne rentrez pas le ventre, ça sert à rien.
Si, avant les chiffres.
Je suis votre prof de sport pour toute la durée de votre cure. Je vais redonner à vos fesses un visage humain.
C'est Astérix et Obélix.
Vous avez fait le régime?
Le régime protéiné.
Et vous avez perdu combien?
1000 euros.
Un petit extrait du film Mince alors, pour débuter cette émission, Ève, signé Charlotte de Turquem à la réalisation et qui dénonce clairement le diktat de la minceur imposé aux femmes en France.
Merci Marlène. Bonjour Romuald, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Donc j'ai 33 ans et je viens de Biscarrosse, dans les Landes, d'une petite station balnéaire.
Alors Romuald, quelle est la partie de votre corps qui vous pose problème? Dites-nous quand et comment ça a commencé?
Ça a commencé à l'adolescence. En fait, j'étais sportif d'assez haut niveau. J'ai eu un accident qui m'a empêché de pouvoir faire du sport pendant un certain moment, mais j'ai continué l'alimentation du sportif de haut niveau, ce qui fait que j'ai pris énormément de poids et je me suis dégoûté face au miroir, ce qui fait que je me suis mis à perdre beaucoup de poids derrière et j'ai du mal, je me vois toujours dans mon image de gros, entre guillemets. Donc, mon ventre particulièrement me gêne et c'est la partie de mon corps que j'ai le plus de mal à montrer.
Alors, pour avoir une idée, que disent vos proches, vos amis sur ce ventre qui vous tracasse tant?
Que j'ai aucune raison d'être gêné par rapport à mon ventre, que j'ai une corpulence tout à fait normale. Mais dans ma tête, je suis convaincue que j'ai du ventre et je suis même passé par une phase proche de l'anorexie et dans laquelle je trouvais que j'avais toujours l'impression d'avoir du ventre. Aujourd'hui, quand je regarde les photos, je me rends bien compte que sur les photos, j'ai été même très très maigre, trop maigre. Mais à cette époque-là, je me voyais gros et aujourd'hui, on va dire que ça va un peu mieux, mais je ne peux pas dire que je suis soignée et c'est la chose que je regarde la première dans un miroir.
Tout le temps. Et est-ce que vous êtes comme tous les autres, comme vous, à essayer de camoufler ce ventre?
Au maximum, sur des photos, bon, je vis au bord de la plage, donc on fait des photos comme ça se fait beaucoup actuellement sur la plage, etc. Et j'essaye toujours, c'est la partie de mon corps que je cache le plus facilement.
Sur les photos?
Sur les photos. Je me débrouille toujours pour avoir un bras devant le ventre, pour être légèrement tourné de côté, pour avoir l'apparence du ventre le plus fin possible. Et,
à votre bureau et aussi, vous dites que vous cachez, enfin vous essayez de le camoufler ce ventre?
Tout à fait, en se tenant le plus droit possible. Et j'ai l'avantage d'avoir une musculature sur le haut du corps qui me permet de donner une impression de corps plus droit. Mais en effet, je bloque ma respiration quand je me retrouve observée par quelqu'un et j'essaye de rentrer le ventre au maximum.
Et je crois que vous dansez aussi, et quand vous dansez aussi, vous avez une autre tactique de camouflage.
Je contracte mes abdos en permanence et en fait, j'essaye de me concentrer le plus possible sur ma chorégraphie tout en pensant en permanence à mon ventre tout le long de la chorégraphie.
Est-ce que vous avez le sentiment d'y penser tout le temps à ce ventre qui vous tracasse comme ça?
Enfin, j'y pense, oui, régulièrement quand même. Il occupe une partie de ma tête et je peux pas dire que je n'y pense pas. La plupart du temps, dans la journée, j'y pense au moins une dizaine de fois.
Et comment vous faites quand vous devez vous déshabiller dans les vestiaires, par exemple, ou même dans l'intimité?
Je le fais parce qu'après, j'ai fait du sport, donc je suis habitué, mais c'est vraiment... Le ventre, c'est vraiment la zone avec laquelle j'ai le plus de mal. C'est-à-dire que, par exemple, dans les coulisses d'un spectacle de danse, si je me retrouve en sous-vêtements, c'est le t-shirt. Clairement, je vais le garder avec les mains relevées juste devant mon ventre, pour cacher juste mon ventre.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ce défaut peut apparaître à nous imaginaire ?
Oui, après, j'en ai conscience par rapport au retour que les gens me font. Je sais que, enfin, dans mon cercle aussi bien professionnel que familial, qu'amical et sportif, on me dit que je suis très bien comme je suis et que j'ai vraiment aucun complexe à avoir. Mais après, je pense que c'est ancré en moi et psychologiquement, j'arrive pas à passer au-dessus de ça et c'est vraiment ce qui me bloque.
Mais donc ça veut dire que vous en avez conscience, mais est-ce que vous avez déjà tenté quelque chose pour justement lutter contre cette obsession? Consulter un psychologue, par exemple?
Absolument pas. Après, j'essaye parfois de me convaincre, mais grâce justement à certaines photos qui peuvent me mettre plus ou moins en évidence qu'en effet, il n'y a pas tant de ventre et de gras que ça, mais ça reste compliqué.
Et est-ce que vous avez le sentiment que ça vous fait souffrir?
Oui, dans un certain sens, oui, ça me fait souffrir, puisque de toute façon, ça m'empêche de vivre certains moments pleinement, puisque ma tête reste plus ou moins obsédée par ce défaut visuel, avec tous les médias, etc., Instagram, et toutes ces photos qui sont certes retouchées, mais qui nous laissent l'apparence de personnes parfaites. On s'identifie forcément à ça, et au final, on a l'impression qu'on est loin de la réalité, donc...
Donc c'est difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous soulage ?
Qu'on me regarde droit dans les yeux et pas au niveau du ventre.
En fait, ce qui vous soulage, c'est qu'on ne regarde pas votre ventre.
Oui,
alors je vais terminer, Romuald, sur une mauvaise blague, parce que je crois que vous êtes opticien dans la vie.
Tout à fait.
Et moi, j'avais envie de vous dire qu'il fallait changer de lunettes pour vous voir autrement. Ça vous a jamais venu en tête de... En fait, il faut changer votre regard sur vous-même.
Oui, de toute façon, c'est un travail personnel que j'ai à faire. C'est pour ça que je n'ai pas été consulté de psychologue. Et pour moi, c'est vraiment un travail sur moi-même à faire. Et c'est l'acceptation de... Ça passe par l'acceptation de mon corps.
Alors écoutez...
Après, au jour d'aujourd'hui, c'est encore compliqué.
En tout cas, Romuald, continuez à écouter cette émission. Je pense qu'elle va pouvoir vous aider. Merci mille fois de nous avoir fait partager votre expérience, de nous avoir raconté cette obsession physique. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Mathilde, qui, elle, se trouve énorme, alors qu'elle est très mince.
Et Eve, j'ai un message sous les yeux de Chloé qui nous dit « J'ai souvent remarqué que j'avais une pulsion, celle d'aller me regarder dans le miroir ou de prendre 36 000 photos sous tous les angles. Je gâche mon temps libre à ça et ça me bouffe mon temps de loisir. Je me demande si je ne suis pas atteinte de dysmorphobie corporelle. »
Europe 1.
Pensez-vous avoir ou vous a-t-on diagnostiqué un trouble obsessionnel de dysmorphie, dysmorphobie ou dysmorphophobie? Faites-nous part de votre témoignage au 3921 ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur la page Facebook de l'émission.
15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1.
Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort.
Comme des enfants, vous avez reconnu Cœur de Pirate. Vous savez qu'il y a quelques mois sur son compte Instagram, la chanteuse avait déclaré qu'elle était atteinte de dysmorphie corporelle au point d'avoir l'impression que ses vêtements l'étouffaient et de ne parfois plus oser sortir de chez elle. C'est le thème de l'émission, la dysmorphie ou dysmorphophobie. Vous allez nous expliquer tout ça, Ève Roger. Comment l'identifier, comment s'en débarrasser, partageons nos expériences de vie. Ève Roger qui est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1.
Alors nous sommes maintenant en ligne avec Mathilde. Bonjour Mathilde, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mathilde ?
Alors moi j'ai 21 ans et je vous appelle de Lille.
Alors vous, votre dysmorphophobie a commencé il y a 10 ans alors que vous aviez une douzaine d'années. Vous vous trouviez énorme alors que vous étiez très mince, racontez-nous.
Bah oui, c'est ça. En fait, j'ai souffert d'anorexie pendant plusieurs années. Et donc, quand je souffrais d'anorexie, je souffrais aussi de dysmorphophobie.
C'est-à-dire que vous, dans le miroir, vous avez le sentiment d'être très grosse ? Il y avait quelle différence entre la réalité et votre imaginaire ?
J'avais pas l'impression d'être très grosse, mais je me voyais clairement pas aussi maigre que je l'étais à cette époque.
Et qu'est-ce qui vous faisait penser que vous étiez un peu grosse ? Les miroirs, la comparaison avec les femmes dans la vie ou dans les magazines ?
Je pense que c'était ni réellement le miroir, ni la comparaison, parce que la comparaison n'aurait pas tenu si je m'y étais vraiment attardée et si j'avais vraiment comparé, parce qu'en réalité, j'étais en sous-poids, j'étais malade, en fait, donc même j'étais en danger. Mais je pense que quand on souffre d'anorexie, souvent, on a une part de notre cerveau qui, disons, un petit peu, et qui fait que déjà, on ne se voit plus comme on est, et qu'en plus de ça, on n'a plus du tout le contrôle même de ses pensées. Et donc, moi, je me voyais grosse, et j'étais aussi persuadée que j'allais grossir si je mangeais trop. Mais à l'inverse, je n'avais pas du tout cette impression pour les autres, en fait. Ça ne concernait vraiment que moi.
Donc, si je comprends bien le mécanisme, au départ, vous avez le sentiment d'être plus grosse que la réalité, donc vous avez commencé à manger moins et vous êtes tombée dans l'anorexie. Est-ce que c'est ça le mécanisme ?
Non, pas du tout. Non. En fait, je suis tombée dans l'anorexie pour un tas de raisons qui, en réalité, n'ont vraiment rien à voir avec mon physique. Mais quand j'étais malade, j'avais beau en fait savoir d'un point de vue scientifique, au niveau de mon IMC, de mon poids, que j'étais maigre, je ne me voyais pas maigre et du coup c'était très compliqué d'envisager pour moi de reprendre du poids, or c'était nécessaire à ma guérison.
Et donc c'est cette dysmorphie corporelle qui vous empêchait de vous soigner d'une certaine façon ? De vouloir vous soigner, d'aller vers le soin.
Disons que ça ne facilitait pas le processus, alors qu'en réalité, à partir du moment où on reprend du poids, bien souvent, cette dysmorphophobie, elle s'atténue. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. Et en fait, plus je reprenais du poids, et plus je commençais à me voir telle que j'étais, et donc plus je me rendais compte qu'en fait, j'étais pas du tout grosse.
Mais comment s'est fait le déclic pour arrêter ce processus mortifère de l'anorexie, justement ?
De même qu'il n'y a pas une seule raison qui fait qu'on y tombe, il y a eu beaucoup d'étapes qui m'ont permis d'en sortir, mais en fait il y a un moment aussi où j'ai moi-même dû me déconnecter de mes pensées et me dire je me vois grosse, je me sens grosse, mais tant pis, il faut que j'aille au bout, que je reprenne du poids et je verrai bien une fois que j'y serai. Et j'ai bien fait de le faire puisque effectivement une fois que j'y étais, je me suis rendu compte qu'en réalité il n'y avait pas du tout de problème physique et que le problème, il avait été dans ma tête et pas du tout dans mon corps.
Et il y a quelqu'un qui vous a aidé ? Un proche ? Un parent ? Ou alors un psy ?
Oui, j'ai eu énormément d'aide. J'ai été suivie par une diététicienne, une psychologue. Mes parents m'ont aussi beaucoup soutenue. Après, tout le travail que j'ai pu faire a jamais vraiment été axé autour du corps, autour de la perception que j'avais de mon corps. Je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui pourrait être très bénéfique dans les prises en charge d'anorexie. Mais moi, j'ai, par exemple, avec ma psychologue, on travaillait vraiment l'aspect, un aspect très global sur mes pensées, sur mon passé, mon présent, sur ce que je vivais, mais pas
assez peu sur le corps, en fait.
Voilà, peu sur le corps.
Et aujourd'hui, comment vous vous trouvez, Mathilde ? Normale, mince, grosse ?
En fait, je dirais que ça dépend des jours. Il y a des jours où je me trouve normale, si tant est qu'il y ait réellement une normalité. Des jours où même je me regarde, je me dis « Oh, je suis canon aujourd'hui ». Et puis des jours où je me sens un peu moins bien. Mais ça, je pense que c'est le cas un peu de tout le monde. Et encore plus, je pense, des femmes, parce qu'on est quand même dans une société où le contrôle sur le corps des femmes est assez fort.
Oui, en tout cas, ça fait plaisir de vous entendre dire parfois « je me trouve canon ». Merci beaucoup Mathilde de nous avoir fait partager votre expérience. Nous serons dans quelques instants en ligne avec Amélie Rousseau. Elle est professeure de psychologie à l'Université de Lille et psychologue.
Et nous avons un message, Ève, un message de David qui nous dit « Je suis obsédée par mon physique, essentiellement ma peau. J'ai une légère rosacée. Ça a commencé vers l'âge de 16-17 ans. J'en ai 30 aujourd'hui. J'y pense H24. J'ai bien dû passer des milliers d'heures devant le miroir. Ça m'a isolée. Je ne sors quasiment plus. Je voudrais savoir quelles sont les thérapies non médicamenteuses les plus efficaces. »
Europe 1.
Quand on est obnubilé par un défaut physique et que ce complexe prend une telle ampleur qu'il nous empêche de vivre normalement, c'est peut-être le signe qu'on souffre de dysmorphophobie. N'hésitez pas à nous raconter votre histoire au 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute, ou à nous laisser un petit message sur la page Facebook de l'émission.
15h-16h, Ève Roger sur Europe 1.
Sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur,
je te mordrai, c'est promis. Tous les coups sont permis, non pas sur les lèvres, même pas en rêve, à 100% où tu mangeras ton pain gris. Mon cœur est endurci.
Un extrait de La Ceinture. Si Élodie Frégéri, aujourd'hui de son strabisme Convergence, n'a pas toujours été le cas, elle en a beaucoup souffert, comme elle a souffert aussi de troubles alimentaires. C'est un petit peu... Alors ça va mieux aujourd'hui, mais les troubles alimentaires, on en a parlé il y a quelques instants. La dysmorphie corporelle, la dysmorphobie, c'est le thème de l'émission. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h sur Europe 1. Avec vous, Ève Roger, on attend vos appels au 39 21 50 centimes la minute.
Alors je m'adresse à vous, Amélie Rousseau, vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeure de psychologie à l'Université de Lille et psychologue. Bonjour et bienvenue sur Europe 1.
Bonjour, bonjour Ève.
Bonjour, alors on a tous des complexes sur notre physique, la forme de notre nez, la taille de notre poitrine ou tout simplement notre poids. Comment peut-on différencier un complexe banal d'une véritable dysmorphophobie corporelle ?
Alors je pense que le critère majeur, c'est la souffrance engendrée en fait par le défaut, hein, comme vous l'avez dit, réel mais minime ou imaginaire. Et aussi tous les rituels, les comportements qui vont être mis en place en fait par la personne pour essayer de camoufler, mais aussi pour surveiller le corps de manière très très importante. Votre premier témoignage, Romuald, disait que il y pensait souvent, qu'il se regardait souvent dans le miroir, etc. Tout ça en fait, c'est des comportements en fait de surveillance accrue du corps. Donc ce qui va différencier une préoccupation, je dirais, normale d'une préoccupation pathologique associée à la dysmorphophobie, c'est le temps qu'on va passer à essayer de gommer, camoufler ce défaut, mais aussi la souffrance en fait que va engendrer cette préoccupation.
Mais c'est vous qui dites qu'on peut passer entre 3 et 8 heures par jour à penser à ce défaut. Ça paraît énorme, ça paraît incroyable.
C'est ça, mais on retrouve hein, aussi ce temps cognitif qui est accordé à la préoccupation, que ce soit pour l'alimentation aussi, etc. Et en fait, chaque fois que je vais sortir, je vais penser, mais voilà, l'autre va voir mon défaut, etc. Et puis toutes les stratégies aussi qui prennent du temps à être mises en place, mais aussi toujours comment puis-je faire en sorte que l'autre ne voit pas ce défaut.
Alors, cette maladie apparaît plutôt à l'adolescence, comment ça se fait ?
En fait, bon, alors on est quand même sur un modèle explicatif multifactoriel hein, où différents facteurs vont entrer en interaction pour expliquer le développement de la dysmorphophobie. À l'adolescence, c'est quand même une période très très particulière pour le corps du fait de la puberté. Donc la puberté va engendrer en fait des changements corporels importants et c'est une période propice à l'installation de la dysmorphophobie, des troubles alimentaires, des addictions.
Parce que le corps change.
C'est une période en fait de très grande. Voilà, c'est une période de très grande vulnérabilité, mais aussi sur un plan psychique avec l'identité, etc. Et c'est un terrain du coup favorisant.
Alors, le visage est particulièrement source d'inquiétude chez ces patients. Pourquoi le visage en particulier ?
Mais c'est ce qu'on voit en premier. Et c'est ce qu'on a le plus de mal aussi à dissimuler. Dissimuler, c'est le visage, c'est la zone corporelle qu'on est
la plus visible.
En premier quand, ouais. Quand on rencontre quelqu'un.
Et est-ce que les défauts qui préoccupent les femmes sont les mêmes que ceux qui préoccupent les hommes ?
Alors, pas tout à fait, parce que ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Romuald, c'est le fait qu'il parle d'Instagram, vous voyez, des corps parfaits, etc.
Les réseaux sociaux.
Voilà. On en reparlera tout à l'heure si vous le souhaitez, mais en fait, les hommes sont plus à la recherche d'un idéal de musculature, alors que les femmes sont plutôt dans la recherche d'un idéal de minceur. Alors les hommes, ça va être des préoccupations de la dysmorphophobie, notamment au niveau musculaire, c'est-à-dire se voir comme étant plus mince ou moins musclé que la réalité. Et chez les femmes, se voir plus grosses que ce qu'elles ne sont en réalité. Et évidemment, avec une pression sociétale extrêmement importante par rapport à ces idéaux corporels.
Et moi, il y a une question que j'aimerais vous poser. Comment on explique ce trouble ? C'est-à-dire que comment quelqu'un peut être persuadé d'avoir un défaut physique majeur alors que ce défaut n'existe pas ou très peu ? Comment c'est possible ?
On est vraiment là dans une explication multifactorielle où on a plusieurs facteurs qui viennent expliquer l'apparition, le développement et le maintien de la dysmorphophobie. On a des facteurs de socialisation, c'est-à-dire, comme je vous le disais à l'instant, les pressions et les idéaux qui sont valorisés dans une société donnée. On a aussi toutes les expériences interpersonnelles que la personne a pu vivre. Je sais pas, moi, quand vous étiez petit, peut-être qu'on vous a dit que vous aviez un gros nez, que vous étiez difforme, etc. Il y a eu des moqueries, des taquineries. Il y a aussi des facteurs de l'ordre de la personnalité. C'est-à-dire certains traits de personnalité nous rendent plus vulnérables à la dysmorphophobie. Je pense par exemple au perfectionnisme, avoir des standards élevés très très importants, à une estime de soi fragile, mais aussi à tout ce qui est, le fait de ressentir plus intensément des affects négatifs, etc. Et aussi notre plus grande propension à la comparaison sociale, notamment au niveau du corps. Mmh. Et enfin, un dernier facteur, c'est les caractéristiques physiques qui nous sont propres, c'est-à-dire notre corpulence, notre apparence générale, en sachant que ces caractéristiques physiques évoluent au fil du temps. Et
est-ce que je comprends donc depuis que les réseaux sociaux existent, et on finira là-dessus, est-ce que ça veut dire que le phénomène est plus important aujourd'hui depuis qu'existent les réseaux sociaux?
Alors, on n'a pas de chiffres, d'accord ? On n'a pas de chiffres en disant, voilà, ça a provoqué. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes, même les moins jeunes, si je puis dire, on est confrontés en permanence à l'image. Mmh. Et c'est des images parfaites qui nous sont données à voir. Donc forcément, je vais comparer, et Romuald l'a très très bien dit, je vais me comparer moi-même, enfin, je vais comparer mon corps avec ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux.
Et ça, c'est terrible.
Toujours des corps. Mmh. Et ça, c'est terrible parce que ça va engendrer de l'insatisfaction corporelle et ça peut amener aussi à développer une dysmorphophobie par rapport à l'apparence.
Parfait. Restez avec nous, Amélie Rousseau, professeure de psychologie à Lille et psychologue. Dans quelques instants, nous allons accueillir David. Il nous racontera les tracas que lui cause son nez.
Et continue à réagir sur les réseaux sociaux et au 3921. Comme Cédric, il nous dit « J'ai commencé il y a quelques années à complexer sur mes oreilles. J'intériorise et j'ai honte d'en parler. Ma famille a tenté de me rassurer, mais je continue à focaliser sur mon problème, qui ensuite se déplace sur une autre partie du corps. Mon nez trop grand, mes sourcils, mes dents, mon cou trop long. Je vais bientôt commencer une psychothérapie avec un psychiatre, car je veux sortir de cet enfer. »
Europe 1.
La dysmorphie n'est parfois que la partie émergée de l'iceberg et peut renvoyer à une pathologie plus grave. Intervenez, réagissez, témoignez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur la page Facebook de l'émission ou bien en composant le 3921, c'est le standard d'Europe 1.
15h, 16h, partagez vos expériences de vie avec Ève Roger sur Europe 1.
Tu les aimes, mes genoux aussi?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses?
Aussi.
Je vois mon derrière dans la glace.
Et ma voix, Ève. Oui, mais, pardon, la scène culte du mépris de Godard. Bien sûr, Brigitte Bardot, nue sur un lit et détaillant son corps à Michel Piccoli sur une musique sublissime de Georges Delerue. Mais faut-il le rappeler ? On parle cet après-midi sur Europe 1 des défauts physiques imaginaires quand on est persuadé d'avoir un nez difforme, des oreilles trop grandes ou d'être obèse alors qu'on ne fait que du 38. Partageons nos expériences de vie avec vous, Ève Roger, jusqu'à 16h sur Europe 1 et intervenez au 39-21, 50 centimes la minute.
Et nous sommes en ligne maintenant avec David. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, David.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
J'ai 40 ans et j'appelle de Paris.
Alors vous, c'est votre nez qui vous pose problème, à tel point que vous l'avez fait refaire. Que lui reprochiez-vous à votre nez ?
Une bosse qui me dérangeait et que je ne supportais plus.
Mais une petite ou une grosse bosse ?
Elle était très imposante.
Pour vous ?
Oui.
Pour vous, hein ? Parce que disaient vos proches ?
Si, j'avais quand même des remarques étant jeune où on m'appelait Cyrano de Bergerac, ou « Ah, tu dois bien sentir avec ton nez ». Voilà, c'était des choses comme ça qui revenaient très régulièrement et moi qui me complexais du coup au fur et à mesure des années.
Et oui. Et comment faisiez-vous pour camoufler votre nez ? C'est compliqué.
C'est très compliqué et alors, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas ? Mais à 15 ans, j'ai eu des lunettes et ça m'a permis du coup de pouvoir cacher en fait cette bosse grâce à ma paire de lunettes.
Et ça vous soulageait ?
Oui.
Et vous passiez aussi beaucoup de temps comme ça à regarder votre nez de profil droit, profil gauche, par-dessus ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Même pour les photos, je refusais qu'on prenne des photos de profil. Mm-hmm. Et de toute façon, toute ma période d'adolescence, j'ai très très peu de photos parce que je ne supportais pas voir ce nez sur mes photos.
Alors, et puis un jour, à 30 ans, alors vous avez sauté le pas de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui vous a convaincu ?
Je pense que j'étais prêt à le faire et je voulais vraiment, je sais pas, j'arrivais à 30 ans et je me suis dit c'est le moment pour le faire et du coup je me sentais vraiment à l'aise avec ça et je me suis dit c'est maintenant, il faut le faire et du coup j'enlève ce complexe-là que je traîne depuis 30 ans.
Et en même temps vous appréhendiez un peu cette opération ?
Oh, oui, complètement parce que voilà, après on va voir un peu ce qui se passe sur internet, on voit un peu... voilà, vous allez avoir des hématomes, j'avais peur du coup d'être complètement transformé. Et la suite aussi, je me dis, est-ce que le nez va vraiment prendre la forme que je souhaite ou, voilà, il y a toutes ces peurs-là qui viennent et puis on se lance quand même parce que je pense que le complexe est plus fort que ça.
Ça vous gâchait la vie finalement d'avoir ce nez ?
Tout à fait, et depuis mes 30 ans, je mets des lentilles, chose que je ne faisais pas auparavant parce que maintenant, ça y est, j'accepte complètement le fait de perdre cette bosse.
Alors, vous n'avez plus cette bosse, mais je crois que vous n'êtes pas encore tout à fait satisfait.
Non.
Alors, racontez-moi.
Non, tout à fait, parce que du coup, je pense que voilà, le visage, au fur et à mesure du temps, change. Et puis, je trouve qu'il est un petit peu décalé. Et j'ai l'impression, des fois, de voir que ça sur les photos.
Alors, attendez, qu'est-ce qui est décalé, le visage ou le nez ? Je ne comprends pas bien.
Le nez.
Votre nez serait décalé depuis l'opération ?
Ouais, en fait, je trouve qu'il est un petit peu dévié sur la droite.
Et donc, vous imaginez vous faire une nouvelle opération ?
Oui.
Alors, je vous pose directement la question à vous, Amélie Rousseau, vous êtes restée avec nous, vous êtes professeure en psychologie à l'Université de Lille et psychologue. Et on retrouve beaucoup justement de ces personnes atteintes de dysmorphophobie dans les salles d'attente des chirurgiens esthétiques. Et ils essaient de faire disparaître ce défaut, j'imagine, et on voit que ça ne marche pas à tous les coups.
En fait, on a 72% atteintes de dysmorphophobie qui ont recours à la chirurgie esthétique.
Mmh. Et donc ?
C'est un chiffre quand même très très important. Et en fin de compte, ce qu'on disait, c'est que il y a une opération, deux opérations, trois opérations. Mais comme c'est un défaut objectivement non perceptible, mais qui est lors de la perception subjective et individuelle, la personne a recours à une multitude de chirurgies esthétiques qui, en fait, ne changent absolument rien de sa perception, en fait, du défaut.
Parce que comment on soigne ce défaut imaginaire ? C'est donc visiblement pas avec la chirurgie esthétique. En quoi consistent les thérapies qui soignent ce mal-là ?
Moi, je vais parler notamment des thérapies cognitivo-comportementales, hein, où on va travailler sur tout ce qui est pensée dysfonctionnelle, hein, par rapport à ce défaut, etc., avec des stratégies thérapeutiques de restructuration cognitive. On va aussi faire de la psychoéducation avec les patients, leur expliquer les facteurs, comme je vous ai dit, explicatifs, etc., et de maintien. Et on va travailler aussi sur les comportements, notamment sur la fréquence des rituels, tout ce qui concerne les comportements de surveillance, etc., le fait de se regarder 40 fois dans la glace par jour, le fait de sortir en étant camouflé, pour en fait diminuer en fait ces rituels, parce que ces rituels, à la place de diminuer l'anxiété, en fait ne font en fait que l'augmenter.
Merci infiniment à Amélie Rousseau, professeure de psychologie à l'Université de Lille et psychologue. Dans quelques instants, nous serons avec Céline. Vous allez l'entendre, son problème à elle se situe au niveau de la mâchoire.
Et comme David, Charline était complexée par son aile, nous a laissé un petit message. Complexe qui a viré à l'obsession au point de lui gâcher la vie. Elle nous dit que cela a eu un impact dans ses choix de carrière et dans ses relations de couple. Elle a eu recours, elle aussi, à la chirurgie esthétique et elle ajoute « Je me suis réconciliée avec moi-même, avec les autres, mais j'ai parfois gardé des réflexes, surtout au moment d'être photographiée. »
Europe 1.
Si vous aussi vous accordez une importance démesurée à une partie de votre corps à l'heure des selfies et des réseaux sociaux, laissez-nous un commentaire sur la page Facebook de l'émission. Partageons nos expériences de vie sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou le 39-21, 50 centimes d'euros la minute.
Ève Roger sur Europe 1.
Nathalie Imbruglia, Torn, c'était au début des années 90, qui elle aussi manifestement a souffert de dysmorphobie, elle l'a avoué dans un article. Bon, apparemment tout va mieux, à 40 ans passés, elle dit ne plus vouloir s'excuser d'être jolie. Vous êtes bien sur Europe 1 avec Ève Roger jusqu'à 16h, partageons nos expériences de vie. Aujourd'hui on parle d'un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, des obsessions difficilement contrôlables et très fréquentes, entre 3 et 8 heures par jour, vous nous l'avez dit en début d'émission, la dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie. 39-21, vous intervenez à l'antenne.
Et nous accueillons maintenant Céline. Bonjour Céline, bienvenue sur Europe 1.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Céline ?
J'ai 24 ans et je suis de Paris.
Alors, vous, votre angoisse, c'est votre mâchoire. Vous avez l'impression qu'elle avance vers l'avant, c'est bien ça ?
Oui, ouais, c'est pas qu'une impression, c'est que je suis passée par un diagnostic médical, orthodontique. Et oui, effectivement, j'ai une sous-occlusion. C'est le phénomène de la mâchoire qui est légèrement avancée. Et si c'est pas traité tout court, ma mâchoire avec le temps peut continuer à avancer et avancer.
Et est-ce que ça se voit? Est-ce que vos proches vous disent qu'ils le voient, qu'ils voient ce défaut?
Alors mon entourage non, mes parents le voient parce que évidemment ils connaissent leur enfant, mais non, sinon c'est vrai que
si je vous croisais là, je ne verrais rien.
Vous ne verrez rien, non.
Donc c'est quand même un défaut qui vous obsède dans votre tête, mais qui n'est peut-être pas forcément visible. Comment vous faites-vous pour camoufler votre mâchoire ?
Ça va être une question de position de confort. C'est-à-dire que je vais souvent fermer la bouche. Je suis jamais dans une position hyper confortable de mon visage, parce que je vais avoir tendance à contrôler ma mâchoire en fait. Mm-hmm. Donc je vais la cacher comme ça, et puis je suppose que le maquillage aide un peu, même si je me maquille pas tous les jours. Mais ouais, voilà, c'est une question de position.
Ça veut dire que vous avez jamais le sentiment d'avoir le visage au naturel. Enfin, je veux dire, il est jamais détendu.
Il est jamais totalement détendu.
C'est ça, jamais détendu naturellement. Et ça veut dire que là, on comprend que vous deviez y penser tout le temps à maquiller cette mâchoire, ou c'est devenu presque un réflexe?
C'est devenu un réflexe. C'est devenu quasi naturel.
Et pour quand vous souriez, quand vous riez, vous avez aussi une petite mimique pour cacher cette mâchoire.
Oui, effectivement. Je tire souvent la langue. je tire très souvent la langue. Bon, du coup, c'est une caractéristique qu'a priori on a trouvé très mignon chez moi et qui m'a donné un certain charme, a priori. Mais en fait, au-delà d'être une mimique, c'est une des seules manières pour ma mâchoire d'être légèrement confortable, légèrement naturel. C'est-à-dire que quand vous avez la bouche fermée, vos dents sont donc positionnées derrière vos dents devant, et c'est une position qui est naturelle. Moi, ça va pas être naturel. C'est-à-dire que ma langue va se positionner entre mes deux mâchoires, entre mes dents du haut et dents du bas, pour que je sois assez confortable.
Alors, vous tirez donc régulièrement la langue, ça vous pose pas de problème? Ça vous cause pas de problème avec l'entourage ou les gens que vous croisez? Ils ne s'en rendent pas compte ?
Non, non, pas du tout. Au contraire, en fait, comme je vous disais, ils ont tendance à trouver ça très mignon. Et a priori, voilà, ça me donne un charme que très souvent, mon entourage me dit, quand je leur parle de ce complexe-là, ils me disent « Ah non, mais attends, tu ne peux pas faire ça. Le fait que tu tires la langue tout le temps, c'est trop mignon. » Et donc, voilà.
Bon, alors, en même temps, ça, ce complexe-là ne vous a pas empêché de rencontrer un amoureux. Est-ce qu'il ne vous rassure pas, lui ?
Si, il est même contre le fait que je puisse remédier à ça. Non, lui, il aime beaucoup. Il aime justement cette mimique dont on parle. C'est quelque chose qui, a priori, l'a fait craquer aussi. Donc, je suis consciente que j'en ai fait... j'ai fait de ce complexe... voilà, j'ai réussi à tirer quelques avantages.
Un avantage, voilà, c'est ça.
Mais même si, voilà, a priori, c'est quelque chose qui a tendance à plaire à mon entourage, moi, ça me complexe toujours et ça m'obsède un petit peu.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt, vous préférez plutôt imaginer des opérations qui pourraient corriger ce défaut qui vous semble un peu rédhibitoire ou plutôt consulter un psy ? C'est laquelle des deux hypothèses ?
Alors non, plutôt remédier à ça par une opération.
Et je crois que c'est une opération qui coûte très cher, non ?
Oui. C'est une opération qui coûte très cher, qui n'est pas énormément remboursée.
Très cher, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez me donner un ordre d'idée ?
Oui, alors là, il y a un traitement justement qui a attiré mon attention, qui est un traitement orthodontique sur 2 ans. Et il coûte quand même entre 3 500 et 4 500 euros.
D'accord. Et est-ce que vous n'avez pas peur, comme on a entendu tout à l'heure avec David, qu'une fois opéré, vous ne soyez pas complètement satisfaite et que ce défaut continue à vous obséder ?
Non, aucune. Ah. J'ai plutôt confiance. Je me suis beaucoup documentée et puis c'est vrai que j'aurais aucun regret parce que c'est un regret que j'ai déjà, parce que j'ai déjà eu un traitement orthodontique quand j'étais plus jeune, qui était un traitement assez lourd avec un appareil dentaire relié. Enfin, vous voyez, c'est un espèce de casque limite de robot qu'il fallait porter 10 heures par nuit, plus la journée. Et par souci esthétique, j'ai refusé de le faire. Et puis j'étais jeune. Donc, au collège, on a envie de plaire, on a envie d'être apprêté. Du coup, j'ai refusé de faire ce traitement et aujourd'hui, je le regrette parce que du coup, je vais le faire.
Vous allez le faire maintenant, donc, à votre âge. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous êtes aussi chanteuse. Il y a quand même un lien entre le fait d'être chanteuse et ce problème de mâchoire, non ? Il n'y a pas un lien que vous faites entre les deux ?
C'est un lien qui est encore une fois esthétique, du coup, parce que c'est vrai que d'être chanteuse, je suis amenée à faire des vidéos, des interviews, des clips, et j'ai beaucoup de mal à me voir en vidéo. J'ai beaucoup de mal à me voir, je sais qu'il y a un profil qui va me conforter plus qu'un autre. Et,
c'est plus difficile.
C'est un peu plus compliqué. Ouais.
Donc cette opération, elle est déjà prévue dans le calendrier ?
Elle est prévue, c'est pas une opération, un traitement long. Il est prévu pour le courant de cette année, à partir de cet été.
On prendra des nouvelles. Merci beaucoup Céline, merci beaucoup pour votre témoignage. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir maintenant Laetitia. C'est une ex-personne obèse qui a maigri et pourtant qui se voit toujours grosse.
Et un message de Sarah qui, elle, a été hospitalisée pour des troubles de l'alimentation. Et elle nous dit, avec la prise d'antidépresseurs, mon visage a énormément enflé. Je le trouve difforme, bouffi, contre nature parfois. Cette hantise de montrer mon visage m'empêche de sortir. Je suis persuadée que les gens se moquent de moi. Je n'ose plus séduire les hommes, persuadée que le monde entier me trouve difforme.
Europe 1.
Vos témoignages restent les bienvenus au 39-21, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute, et sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger. Cet après-midi, on s'intéresse à une phobie qui touche 1 à 2,5% de la population, la dysmorphie corporelle ou dysmorphophobie.
Pour conclure cette émission, nous avons avec nous maintenant Laetitia. Bonjour Laetitia, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Laetitia ?
Alors, j'ai 37 ans et en fait, je suis d'Entraigues-sur-la-Sorgue.
Alors, vous êtes une ancienne obèse, vous avez perdu 32 kilos, oui. Et pourtant, vous voyez...
52.
À 52, c'est encore mieux. Et pourtant, vous voyez encore grosse. C'est bien ça, votre problème ?
Absolument, oui, tout à fait.
Et est-ce que la balance dit aussi que vous êtes toujours grosse ? Non, je crois pas, vous avez dit.
Non, effectivement, même mon INC, effectivement, dit que...
L'indice de masse corporelle, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Hein, mais... Donc votre IMC dit oui, non plus. Je crois que vous pesez maintenant 68 kilos, c'est ça ?
Tout à fait. Là, j'ai repris 8 kilos. Donc, justement, en ayant une image décalée de moi-même, les troubles du comportement alimentaire ont repris.
Oui.
Et j'ai beau avoir perdu tout ce poids, à un moment donné, effectivement, je me disais, voilà, j'ai, mais de toute façon, tu es encore grosse, tu es encore, voilà, je me voyais toujours avec 10, 15 kilos de plus. Là, effectivement, en ayant repris les 8 kilos, vraiment, c'est limite, je me vois bientôt obèse, quoi.
Alors, voilà, mais en même temps, ça veut dire que continuer à vous voir grosse, ça veut dire que vous avez continué à vous habiller comme avant, comme quand vous étiez obèse.
À des moments, oui.
Et c'est-à-dire,
à des moments,
c'est
oui,
quoi,
à d'autres, c'est-à-dire à des moments, ça va être du large, etc. À d'autres moments, je vais quand même m'habiller en fonction de ma morphologie.
Votre parce nouvelle que ma morphologie, oui, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Mais après, voilà, c'est surtout de ne pas me sentir bien voilà, dans ma peau, dans mes habits, voilà.
Ça veut dire que quand vous pesiez 68 kilos il y a quelque temps de ça, on n'en est pas loin. Mmh. Vous aviez le sentiment d'être encore grosse et donc d'avoir toujours ce physique-là. Donc, est-ce que le regard des autres n'avait pas changé sur vous aussi ?
Ah si, par contre, complètement. Le regard des autres avait complètement changé parce que avant, on me regardait vraiment comme quelqu'un d'obèse. Au jour d'aujourd'hui, plutôt, voilà, comme une jolie femme. Enfin, voilà, vraiment là-dessus, j'ai. Mais le regard des autres n'est pas. C'est comme s'il n'existait pas.
Ça vous rassure pas, ça vous soulage pas, rien.
Non, non. Alors, à des moments, comme pour les vêtements, à des moments, je me dis, si les gens le voient, c'est qu'il y a bien quelque chose. Mm-hmm. Mais à d'autres moments, je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, ils se rendent pas compte. Ils veulent me faire plaisir. En fait, moi, je suis grosse. Voilà, enfin.
Ce qui est terrible, c'est qu'en vous entendant, on se rend compte que vous n'êtes pas plus heureuse aujourd'hui qu'avant.
Non, effectivement. C'est un peu mieux parce que je me rends compte à des moments que il y a quand même une amélioration, mais ce n'est pas pour autant que je suis bien avec mon image. Mm-hmm. Loin de là.
Et je crois que vous avez même voulu vous faire opérer d'une opération de l'abdomen, mais la Sécurité sociale a refusé de vous rembourser car elle jugeait l'opération inutile. Ça rassure pas.
Absolument.
Non plus.
Ben non, je me suis dit qu'en fait c'était peut-être eux qui abusaient, qui se rendaient pas compte en fait de mon mal-être. Mmh.
C'était eux
donc,
qui se trompaient.
Un peu.
D'accord.
Mais pour moi c'était plus ça. C'était plus ça parce qu'effectivement, oui, j'ai pas les 7 cm de tablier qui est requis pour pouvoir passer à l'opération, mais j'ai quand même voilà ce ventre qui me gêne et je voulais absolument m'en débarrasser, mais ça, c'était à mes frais. Si je le fais, c'est à mes frais.
Et c'est cher ?
L'abdominoplastie, oui, c'est 5000 euros, un mois minimum
d'hospitalisation.
Ouais, traité, mm-hmm. Tout à fait, voilà. Donc oui, c'est très compliqué, mm-hmm. Très compliqué.
Alors vous avez quand même suivi une thérapie vous-même qui vous aide à comprendre pourquoi vous êtes la seule à vous voir grosse aujourd'hui. Enfin, je dis qui vous aide à comprendre, mais est-ce que vous comprenez ?
Petit à petit, le chemin se fait, mais vraiment doucement, vraiment. J'arrive à faire, on va dire, des petits pas. Mais je reste encore bloquée à me dire, voilà, je suis encore quelqu'un de grosse, je ne serai jamais quelqu'un de mince, j'y arriverai jamais à être dans la norme, à être bien, voilà. Mmh. C'est vraiment, c'est compliqué.
Alors, je vais m'adresser maintenant à Amélie Rousseau, qui est toujours avec nous, professeure de psychologie à Lille et psychologue. Je voulais vous demander, Amélie Rousseau, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont des adolescents, qu'est-ce qu'on doit dire aux parents ? Que doivent-ils faire si son ado manifeste des signes de dysmorphophobie corporelle ? Comment on le repère ?
La première chose pour moi, c'est de dialoguer avec son enfant, d'être à l'écoute de ses préoccupations. Et ce qui doit nous alarmer en tant que parents, c'est parce que dire tous les adolescents sont insatisfaits, ils se trouvent trop gros, ils ont trop d'acné,
bah
etc.
Oui.
C'est voilà, ça fait partie, j'ai envie de vous dire, du processus de l'adolescence et de la puberté. C'est la souffrance, c'est-à-dire un adolescent qui souffre beaucoup, qui se replie sur lui-même, qui évite les interactions sociales, qui dépense de l'argent de manière excessive dans des produits, dans des afin de gommer en fait ce défaut. Voilà. Après le dialogue il est essentiel. Et je vous dis encore une fois, ce qui est de l'ordre, c'est ça qui est difficile, c'est d'identifier ce qui est de l'ordre de la normalité. hein, à l'adolescence et de l'ordre du pathologique.
Et de l'excès,
voilà.
Si en tout cas.
S'il y a un isolement social important, si on voit des comportements ritualisés très, très fréquents, ça doit nous alerter en tant que parents.
Très bien.
Et essayer d'amener l'adolescent à parler de ses préoccupations.
Bah, je vous remercie beaucoup, Amélie Rousseau, pour votre éclairage si intéressant. Merci beaucoup, Laetitia, Romuald, Mathilde, David et Céline, de nous avoir fait partager vos expériences respectives. Pour savoir si notre complexe physique est normal ou s'il est disproportionné, il faut s'interroger. Est-ce que je pense à ça toute la journée? Est-ce que ça m'obsède? Est-ce que ça m'empêche de vivre? Et si la réponse est oui, alors là, il faut faire quelque chose. Inutile de dépenser tout son argent chez le chirurgien esthétique. L'opération n'y changera rien, le mal est en nous. Mieux vaut donc se tourner vers un psychologue, spécialiste des thérapies comportementales. La dysmorphophobie est un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, et se soigne comme un TOC, petit à petit, à coups d'exercices au quotidien qui finiront par vous soulager. Et puis un dernier conseil, fuyez les miroirs, les réseaux sociaux et l'application Instagram. Essayez de vous libérer de ces images de corps parfaits, complètement fabriquées, pour vous laisser une chance, à défaut d'aimer votre corps, d'avoir au moins un peu de bienveillance pour lui.
Et on peut continuer à en discuter sur les réseaux sociaux et le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Et demain, puisque c'est l'été, nous demanderons si partir seule en vacances n'est pas la meilleure façon de voyager. Si vous êtes une femme et que vous sillonnez le monde seule avec votre sac à dos, ça marche aussi pour les hommes. Si vous avez connu de mauvaises expériences sur les routes, si vous partez seule avec des inconnus dans des clubs pour faire du sport, du yoga ou même un long voyage, appelez-nous au 39 21 pour témoigner. Nous attendons vos appels. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation très physique de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, Marlène.
Hâte de vous retrouver demain, Eve.
Je vous laisse maintenant pour 2 heures de musique en compagnie de Karima Charny. Laissez-vous emporter, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.